Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, première cassette, deuxième face, page 30. Suite et fin de l'histoire du forgeron de Pont-de-Pile. Le forgeron de Pont-de-Pile arriva le lendemain au château. Il trouva les bijoux de la noce parfaits. Il n'y retoucha rien. Il reprit donc le chemin de sa forge avec son apprenti. Le soir de leur retour, il lui servit à boire et versa dans son vin une poudre d'ornithine. Le garçon vida sa timbale. À peine l'eut-il reposée qu'il tomba le front contre la table. Son maître lui lia les chevilles et les poignets, enfonça un torchon dans sa bouche, alluma un grand feu dans la forge et affûta ses ciseaux à découper le fer. Le lendemain matin, l'apprenti s'éveilla.
« Tu es en mon pouvoir, lui dit le forgeron. Si tu ne veux pas souffrir les tourments de l'enfer, épouse ma fille, la reine des vipères. »
Le garçon bâillonné répondit d'un remuement de tête. Il fit non en grognant. Alors, l'homme empoigna ses ciseaux et d'un coup trancha son pied gauche. « Épouse, c'est un ordre !» Les yeux étincelants, l'apprenti fit à nouveau non. Son maître lui trancha le pied droit. « Épouse, mille diables !» Le tourmenté cracha son baillon et hurla que jamais il ne prendrait pour femme une fille vipère. Alors, le forgeron amena son cheval, coucha le garçon sur l'encolure et l'emporta à travers vents et forêts jusqu'au bord de l'océan où était un désert de roc. Au milieu de ce désert se dressait une tour sans porte ni fenêtre. Au pied de cette tour, l'homme leva la tête et appela trois aigles qui planaient dans les nuées.
« Portez ce moins que rien là-haut sur la terrasse, leur dit-il. Quand il acceptera d'épouser ma fille vipère, venez me prévenir. »
Et comme les oiseaux enlevaient le jeune homme,
« Garçon, l'or et l'argent ne te manqueront pas. Je veux que tu travailles. Mes aigles, tous les soirs, te paieront d'un crouton de pain et d'une gourde d'eau. »
Au sommet de la tour, l'apprenti fut posé. Là était une forge ouverte sur le ciel. Il y resta 7 ans, s'échinant chaque jour pour son maître et travaillant la nuit, en secret, pour lui seul. Il se forgea d'abord une hache, se fit un ceinturon de fer garni de 3 crochets, cisela 2 pieds d'or qu'il planta au bout de ses jambes infirmes. Enfin, il ouvragea 2 grandes ailes, aux plumes d'argent fin. Quand tout cela fut fait, un soir, il appela la reine des vipères. Une voix dans l'ombre lui dit « Que me veux-tu ? » « Je renie mes amours, je veux bien t'épouser. » La voix lui répondit « Si tu n'as pas menti, ton martyre est fini. Je viendrai te chercher demain au coucher du soleil. » Quand l'heure fut venue, le garçon lia ses pieds d'or à ses chevilles, boucla sa ceinture et prit sa hache. Quand le soleil tomba au fond du jour, la reine des vipères apparut près de lui. Il leva son arme et la battit sur sa tête, avec tant de force qu'il trancha son corps de haut en bas. De son sang ruisselant naquit un serpent à figure de fille. Il le trancha aussi. Il accrocha la tête au premier croc de fer rivé à sa ceinture. Au deuxième croc, il attacha le corps. Il revêtit enfin ses ailes d'argent et s'envola dans le voie noir. À minuit, il posa le pied derrière l'atelier silencieux de son maître. Il attendit un peu, puis il le vit sortir, descendre au bord de la rivière, se dépouiller de tout, vêtements, peau humaine, se faire loutre et se glisser dans l'eau. L'apprenti s'approcha, prit sa peau encore tiède dans le saule creux et l'accrocha au 3e croc de sa ceinture. Après quoi, il prit son vol et tournoyant sur la rivière obscure.
« Forgeron, m'entends-tu » dit-il. « Que veux-tu, grand oiseau ?»
« Je ne suis pas oiseau, je suis ton apprenti.
j'ai enduré 7 années les tourments de l'enfer. Ta fille est en morceaux, pendue à ma ceinture, et ta peau d'homme aussi. » Le forgeron gémit lamentablement et plongea dans l'eau noire. De ce jour, personne ne le revit jamais. L'apprenti s'en alla droit au château de la garde. Le jour naissait. Dans le verger était une chapelle. Il en brisa la porte. À la lueur de l'aube, il vit sa bien-aimée dans son cercueil. Il lui dit doucement : « Avez-vous bien dormi ?» Elle lui répondit : « J'ai mis mon voile blanc, ma robe de mariage. Ai-je fait comme il faut ?» Ils sortirent ensemble au soleil du jardin. Le péché de l'ermite. Il était une fois un ermite parfait, si pur, si simple et si doux que Dieu l'aimait autant que son enfant Jésus. Cet intime du ciel ne lui avait jamais causé la moindre peine tant il était limpide. Il vivait de presque rien dans la grotte creusée au flanc de la montagne verte où il allait cueillir des fruits sauvages et des herbes à tisane pour les humbles festins qu'il s'offrait le dimanche. La semaine, il accrochait son sac à un clou dans le roc devant sa porte, et si quelque bonne âme y déposait du pain, il mangeait. Sinon, il se nourrissait de prières. Comment donc le tenter ? Se dit un jour le diable. Comment empoisonner ce cœur dans lequel tous les jours la Sainte Vierge vient arroser ses fleurs. Il espionna son homme, flaira l'empreinte de ses pas, entre son crâne et ses orteils chercha la moindre porte par où s'insinuer dans son corps. Il ne put en trouver. Il s'irrita, pesta, s'en alla enfin trouver Dieu. « Seigneur, lui dit-il, je demande justice. »«
Contre qui, fils maudit ?»
« Contre toi, dit Satan, tu abuses de ta toute-puissance. Il est dans une grotte, un ermite inaccessible au mal. Pourquoi interdis-tu qu'il soit, comme les autres, soumis à mes méchancetés ? Sois dit sans t'offenser, c'est du favoritisme. Mon métier ici-bas est de tourmenter les gens. C'est toi qui l'as voulu. Tu me dois les moyens de travailler tranquille. »
« Fort bien, répondit Dieu. Tente cet homme, je t'en donne le droit. Je n'ai pas de souci, tu ne le vaincras pas. Sa chambre est déjà prête au paradis. »
Merci, Seigneur, et bonsoir, dit Satan.
Il courut chez l'ermite. Il le trouva assis devant sa porte, occupé à dîner d'un crouton et d'une cruche d'eau.
Salut, lui dit Satan, sais-tu qui je suis ?
« Le diable, répondit tranquillement l'ermite.
Dieu m'a permis de troubler ton repos. J'aimerais te voir commettre une faute majeure. »
« Parle, dit l'autre, je t'écoute. »
« Assassine quelqu'un. »
« Non, répondit l'ermite.
Tu renacles, parfait. Viole une femme. »
« Trop grave, trop bestial. Diable, trouve autre chose. »
« Bois plus que de raison, c'est un péché sans conséquence, tu ne peux pas refuser. »
L'ermite soupira. « S'il faut que je perde la tête, je veux bien l'oublier un moment dans un flacon d'alcool. »
À peine eut-il parlé qu'un flacon de niaule apparut devant lui sur l'herbe.
Il la prit par le col, but, rougit, s'étouffa, cracha, reprit son souffle et gronda « Oh, c'est terrible !»«
Encore une goulée, lui dit le diable. Courage !»
L'ermite renfonça le goulot dans sa bouche, but deux lampées, toussa « C'est éprouvant, dit-il. »
Il ricana pourtant, puis à nouveau leva le coude sans que le diable ait à l'aider, engloutit la fiole à moitié, la laissa choir enfin et déclara l'œil allumé.
« C'est bon, c'est chaud,
était diabolique. Il hoqueta et partit d'un grand rire. Or, comme il se tapait sur les cuisses en s'exclamant de plus belle, une femme parut sur le sentier. « Bonjour, saint homme, lui dit-elle, je vous ai apporté quelques pommes de mon jardin. »
« Vous me plaisez extrêmement, lui répondit l'ermite. »
La mine enthousiaste, il empoigna ses hanches, la culbuta dans un buisson et se coucha sur elle en hurlant comme un vieux loup. Elle appela à l'aide. Son mari, qui ramassait du bois à quelques pas de là, accourut en grande hâte. Quand il vit le bonhomme tout empêtré sous les jupons de sa femme, il le saisit par la nuque et l'arracha rudement à son plaisir coupable. Alors l'autre, hagard, ramassa à deux poings un quartier de roc, le leva en hanant au-dessus de sa tête et l'abattit, les yeux fermés. Quand il les rouvrit, l'homme gisait à ses pieds, le crâne fracassé. « Je crois qu'il est mort, » dit Satan, l'air modeste. Il cueillit une fleur et la mit à sa bouche. L'ermite, dégrisé, se prit le front et dit épouvanté, « Mais, Seigneur Dieu, qu'ai-je fait ?» Le diable répondit, « Des trois fautes, tu as choisi la moindre. Tu as péché trois fois. Boire trop n'était rien, mais violer une femme et tuer son mari, voilà qui te promet de longs jours en ma compagnie. » Sifflotant, les mains dans les poches, le diable fit mine de s'en aller. À quelques pas, il s'arrêta, se tourna, et comme on interpelle un frère de route, « Hé, l'ermite, tu viens ?» Les quatre fils. Aussi vaillant qu'on soit au travail quotidien, vient toujours le moment où l'on doit s'asseoir auprès du feu, les mains vides, le dos courbé, et aussi pauvre que chacun devant les ans accumulés. Ainsi fit un jour un vieil homme dans son humble maison que secouait le vent. Il appela ses quatre fils autour de sa chaise, et se chauffant tristement aux braises du foyer, le front bas, il leur dit, « Enfants, j'ai fait mon temps. Il vous faut maintenant marcher sans votre père. Allez donc par le monde, apprenez un métier. Quand chacun de votre art, vous serez passé maître, revenez au village. Et si la mort oublie d'ici là de me prendre, vous me trouverez sur cette chaise où je vous dis adieu. » Les quatre fils s'enfuirent. Au premier carrefour, chacun suivit sa route. L'aîné, dans un hameau, au bord d'une rivière, vint à passer devant une maison de pierre blanche. Là était un vieillard qui contemplait le ciel, assis devant sa porte, une lorgnette à l'œil. Le jeune homme lui dit, « Je cherche du travail. »«
Et moi, un apprenti, » répondit le bonhomme.
« Quel est votre métier ?»«
Fils, je suis astronome. » »«
Et que m'apprendrez-vous ?»
« Je t'apprendrai à voir. Dans un an, jour pour jour, si tu travailles bien, tu auras pour salaire une lunette telle que par son œil unique, tu verras l'invisible aussi bien que le visible. »«
Voilà qui me plaît, » répondit le jeune homme. Ce même matin-là, le deuxième des fils croisa sur son chemin un grand bougre au poil noir, aux pieds bottés de daim, à la tête coiffée d'une toque de loup. Ils firent halte ensemble. « Salut, dit le jeune homme, je cherche un bon patron. »«
J'en suis un, » lui répondit l'homme. « Ton air me paraît franc. Suis-moi, je suis chasseur. »
Il le prit par la main, et comme il l'entraînait dans la forêt. « Si tu sais me servir, dans un an, jour pour jour, tu auras pour salaire un arc assez précis pour qu'infailliblement toute bête visée soit abattu sur place. » Le troisième des fils parvint dans une ville où il erra longtemps des chopes en atelier sans que lui soit donné le moindre espoir d'ouvrage. Au soir, le ventre creux, il poussa le battant d'une taverne. Dans la salle n'était qu'un homme maigre et long, accoudé devant un pot de vin. Le garçon s'approcha, proposa ses services. L'autre examina, l'air méfiant.
« Il me faut, lui dit-il, un assistant discret, courageux et rusé. Je suis voleur. Si tu sais écouter et suivre mes conseils, dans un an, jour pour jour, tu sauras tout voler, même une pièce d'or, sans que baille la bourse. »
« Marché conclu, dit le fils, et ils burent ensemble. Le quatrième des fils, sur le marché d'une vieille cité, se prit à converser avec un petit homme qui semblait comme lui s'intéresser aux gens plus qu'aux fruits et légumes. Il lui dit qu'il cherchait un maître à servir. L'autre le regarda par-dessus ses lorgnons et répondit « Je suis tailleur d'habits et je veux bien t'instruire. Si tu travailles comme il faut, dans un an, jour pour jour, je te ferai cadeau d'une aiguille assez fine et d'un fil assez fort pour coudre le bois dur, la pierre et le métal. » Il l'amena chez lui. Quand un an fut passé, les quatre fils revinrent au village natal. Le père, en les voyant entrer, se leva de sa chaise, leur ouvrit ses grands ses bras, les embrassa, leur offrit à manger, puis il leur demanda, à l'heure du café, ce qu'ils avaient appris sur les chemins du monde. « Moi, je suis astronome, » lui répondit l'aîné. « Moi, chasseur, moi, voleur, et moi, tailleur d'habits, » répondit le quatrième.
« Piètre métier, » grommela le vieux père, « mais qu'importe l'argent, la gloire, la puissance. Quoi qu'on fasse, mes fils, l'essentiel est de le faire bien. J'aimerais donc savoir si vous êtes au moins des ouvriers convenables. Toi, l'astronome, dis-moi ce que tu vois à la cime de l'arbre là-bas, au fond du pré. »
L'aîné mit sa lunette à l'œil et répondit.
« Une oiselle, elle couve. »
« C'est bien. Toi, le maître voleur, peux-tu grimper au nid et empocher les œufs sans éveiller la mère ?»« Facile, » dit le troisième fils.
Il s'enfuit au feuillage, se hissa de branche en branche, fit un trou sous le nid et revint à son père.
« Voici 12 œufs tout chauds, » lui dit-il.
« Beau travail. Et toi, tailleur d'habits, saurais-tu proprement recoudre ce que ton frère a déchiré ?»
Le tailleur prit l'aiguille parfaite dans son sac, s'en fut à l'arbre, raccommoda la déchirure et s'en retourna au seuil de la maison.
« Parfait, » dit le père. « Ne reste plus que toi, chasseur. Fais ton travail. J'aimerais pour ce soir une oiselle à dîner. »
Le chasseur mit 2 doigts à sa bouche. Il siffla. L'oiselle s'envola. Une flèche aussitôt l'atteignit droit au cœur. Le père hocha la tête.
« Vous êtes de bons ouvriers, » dit-il. « Je suis content de vous. »
Tous 4 s'installèrent et vécurent 1 an, bien pourvus en travail. Or, un matin, des marchands voyageurs arrivèrent au village avec une étrange nouvelle. La fille aînée du roi venait d'être enlevée par on ne savait qui et se trouvait captive on ne savait pas où. Et le roi promettait la princesse en mariage à qui la sauverait et la ramènerait au palais de son père. Les 4 fils du vieux, aussitôt informés, laissèrent leur ouvrage et se mirent en route. Ils grimpèrent d'abord sur la plus haute montagne du pays. Quand ils y furent, l'astronome mit l'œil à sa lunette et aperçut la mer à l'horizon de l'est. Sur les vagues scintillantes, il découvrit un dragon noir. Et sur ce dragon noir, lié entre ses cornes, il vit la fille aînée du roi. Elle pleurait les yeux perdus. Il la trouva touchante et se sentit le cœur tout parfumé d'amour. Il informa ses frères. Tous 4, en grande hâte, s'enfuirent à la mer, naviguèrent 7 jours sur une barque rouge, découvrirent enfin le dragon endormi sur les eaux infinies. Le voleur aux pieds doux lui grimpa sur le dos sans qu'une écaille grince,
délivra la princesse et s'en retourna avec elle. Alors, droit sur la proue, le chasseur décocha une flèche précise. Le dragon coula mort dans un grognement étonné. Vers la terre lointaine, heureux, ils s'en revinrent. Mais leur bonheur fut court. Le ciel se mit à gronder, la bourrasque à souffler, la mer à s'enrager. Le navire ballotté çà et là se déchira bientôt le ventre contre un mur de récif. La fille aînée du roi appela Dieu le Père et ses saints au secours. « Princesse, ce n'est rien !» lui dit le tailleur. En quatre coups d'aiguille, il rafistola tout, jointures, trous béants et voiles en lambeaux. Le lendemain matin, la princesse et ses quatre sauveurs entrèrent au palais. On leur fit une fête extrêmement flatteuse.
« Garçons, leur dit le roi, je vous aime beaucoup, mais comment marier ma fille à quatre hommes ?»«
Sans moi, dit l'astronome, qui aurait découvert le dragon sur la mer ?»«
Sans moi, dit le voleur, qui l'aurait délivré ?»«
Sans moi, dit le chasseur, le monstre nous aurait sûrement dévoré !»
« Sans moi, dit le tailleur, nous serions tous noyés à l'heure où je vous parle. »
Le roi réfléchit un moment, puis levant l'index devant son nez pointu.
« Et si je vous offrais un coffre d'or à chacun ?» Tous les quatre acceptèrent d'un même élan et s'en retournèrent chez eux fort satisfaits. Car à chacun, dit-on, en cachette des autres, la promesse promit ce qu'il voulait entendre. Laisse ta porte ouverte et ta lampe allumée. Je viendrai dans un mois ou dans une semaine. À bientôt, mon ami. L'attente leur fut longue et douce, infiniment.
Le coffre. On l'appelait la louve. Elle n'était point pourtant difforme ni féroce. Elle était grande dame et sa figure était si belle que même les vieillards tombaient amoureux d'elle. Mais personne n'avait jamais effleuré sa main blanche, même furtivement, car son époux était un gaillard redoutable, aussi large que haut, jaloux de son honneur et prompt à déchaîner la foudre au moindre mot de trop. Son nom était Guiraud. G-U-I-R-A-U-D. On l'appelait le loup. Voilà pourquoi sa femme était nommée la louve. Dans son château perdu hors des routes passantes, Guiraud n'invitait jamais personne, sauf quelques compagnons aussi rudes que lui, que la louve n'estimait guère. Elle n'avait d'amitié que pour les batteleurs, qui venaient parfois chanter, jongler et danser dans la cour de la demeure. Elle les trouvait beaux. Elle enviait surtout leur liberté rêveuse. Elle n'en disait rien et faisait mine de les estimer peu, de crainte que Guiraud ne prît ombrage d'un intérêt trop vif pour ces gens de grand vent, à peine vus, trop tôt enfuis, qu'elle gardait en elle longtemps après qu'ils eussent disparu sur le chemin de la vallée. Or, un jour qu'elle cheminait dans la forêt voisine, où elle allait parfois visiter un vieux berger retiré du monde, lui apparut soudain au détour du sentier une créature si étrangement effrayante qu'une plainte lui sortit de la gorge. Elle se détourna, voulut s'enfuir.
« Madame, ayez pitié !» dit une voix humaine.
Elle regarda cet être qui lui tendait les mains debout à quelques pas. Il était hirsute, poussiéreux, vêtu de pied en cap de quatre peaux de loup.
« Je vous connais, » dit-elle, hésitante, craintive. « Mon nom est Vitalis, V-I-T-A-L-I-S. J'ai chanté l'autre jour devant vous, pour vous seul. C'était à la Saint-Jean. »
Elle lui répondit, « Certes, je me souviens, mais que faites-vous là dans ces fourrés, vêtus comme une bête ?» Il ne répondit pas. Il tomba à genoux, il semblait épuisé. Elle lui prit la main et le mena chez elle, lui fit prendre un bain chaud, l'habilla de bonne laine et l'attabla devant quelques viandes rôties. Guiraud était au loin, à la chasse aux sangliers.
Vitalis, dites-moi. » Il lui dit qu'il l'aimait.
Après qu'il eut chanté à la Saint-Jean, il avait refusé de reprendre la route avec ses compagnons. S'éloigner du regard de cette louve qui lui avait troué le cœur lui apparut insupportable. Il ne pouvait pourtant, lui, l'errant saltimbanque, prétendre vivre auprès d'une aussi haute dame. Alors, il avait décidé de rester dans ce bois, à espérer la voir, parfois sans être vu, vêtu de peau de loup pour honorer sa louve, pour que soit dit sans cesse aux bêtes, aux arbres, au monde, « Voyez, je suis à elle. » Quand il se tut enfin, il vit qu'elle pleurait, et que ses yeux brillaient, et que ses larmes étaient, en vérité, heureuses. Elle lui dit, « Je t'aimais sans savoir qu'un homme tel que toi existait hors des rêves. » C'était la fin du jour. Dans la chambre fermée, la nuit fut longue et belle. Or, Guiraud s'en revint, au matin, de la chasse. Il apprit d'une vieille servante que sa femme avait, en son absence, accueilli un voyageur. La vieille lui dit aussi que cet homme n'avait pas repris sa route après avoir dîné et qu'il n'avait pas couché dans la chapelle où l'on hébergeait d'ordinaire les pèlerins de passage. Guiraud rugit.
« Où est-il donc ?»
L'autre lui désigna la fenêtre de l'appartement où dormait la louve. Guiraud, un court moment, resta pétrifié, gronda entre ses dents et soudain s'en fut droit à la tour. Il parvint à l'étage à l'instant où sa femme sortait sur le palier.
« Madame, lui dit-il, avez-vous dormi seule ?»
Elle le regarda, tremblante, fière, pâle. D'un coup de pied furieux, il ouvrit grand la porte, s'avança lentement. Le lit était défait et les draps chiffonnés, mais la chambre était vide. Contre le mur était un long coffre de chaînes. Guiraud le désigna.
« Madame, ouvrez ce meuble. Si je vois dedans ce que je crains d'y voir, vous n'aurez plus qu'à prier Dieu pour la dernière fois. »
Elle ne bougea pas et resta muette. Guiraud, dans son œil noir, devina de l'orgueil, du défi, de la haine. Elle lui dit enfin, « Seigneur, ouvrez-le vous-même, si vous ne craignez pas de vous rabaisser à ce misérable travail. » Il fit deux pas, s'arrêta, resta la tête basse.
« Madame, dites-moi qu'un homme n'est pas ici caché, et par Dieu, je vous fais serment de vous laisser en paix. »
« Seigneur,
tuez-moi donc, et ouvrez-moi le cœur. C'est là, et point ailleurs, que je tiens mes secrets. » Guiraud leva le front. Il la prit aux épaules, la contempla longtemps sans qu'elle détourne les yeux, et dit enfin,
« Madame, gardez-les. Je n'en veux rien savoir. »
Il s'en fut à la porte et appela. Ses valets accoururent. Il leur ordonna de prendre le coffre et d'aller l'enterrer profond dans le jardin. Après quoi il sortit. Le coffre fut enfoui et personne ne sut si l'amant de la louve était caché dedans. Peut-être avait-il pu s'échapper de la chambre. Elle l'espéra, contre toute raison. La vie reprit son cours. Nul ne reparla plus de ce matin maudit. Après un an passé, la louve s'en alla en pèlerinage à Compostelle. Elle n'en revint jamais. Guiraud ne put savoir si elle était morte en route ou si quelqu'un, au loin, lui avait fait oublier son époux, son château et sa lourde noblesse. Les arbres et la rivière. Ils étaient deux enfants, un garçon, une fille. Ils s'aimaient d'amitié. Le garçon travaillait pour Thorchen, T-O-R-D, trait d'union C-H-E, accent circonflexe N-E, son oncle, un bûcheron braillard et malfaisant. Tous les matins, à peine le soleil levé, il jetait son neveu hors du lit et rugissait « Au bois mort !» Et le garçon courait à la forêt et jusqu'au soir, il ramassait des branches. Chaque jour, vers midi, au bord du fleuve, son ami l'attendait. Elle cherchait des truites sous les cailloux. De temps en temps, elle en trouvait, des écrevisses aussi. Sa pêche nourrissait sa famille. Mais son travail lui faisait mal au cœur. Elle aimait les poissons vivants dans le courant, leurs fuites, leurs éclats agiles. « Regarde, disait-elle à son ami des bois. » Et ils restaient tous deux, de longs moments, penchés à contempler la vie mystérieuse des eaux. Puis ils parlaient un peu. Ils se réchauffaient l'un à l'autre, à dire par les yeux leur bonheur d'être ensemble. Parfois, il lui disait « Demain, c'est jour ailleurs. Je ne sais où j'irai. » Elle ne répondait pas. Elle rêvait plus longtemps que d'habitude contre son épaule. Quand ils se retrouvaient, après ce jour ailleurs. « Hier, disait le garçon, je t'ai vu remonter le courant vers la montagne. Tu étais un poisson aux écailles dorées. Tout le peuple des eaux te faisait escorte. » Elle répondait, oui, j'ai rêvé cela, et comme je nageais parmi les vagues, je t'ai vu sur la rive. Tu étais un chêne, et tes branches hautes étaient illuminées, tous les arbres de la forêt étaient autour de toi, ils semblaient écouter les bruissements de ton feuillage. Moi aussi, j'ai rêvé cela, murmurait le garçon. Et il restait pensif. Comment, se disait-il, avons-nous pu nous rencontrer dans deux rêves semblables? Un jour, comme il parlait ainsi au bord de l'eau, par le sentier s'en vint le gros Thorchen.
« Que fais-tu là, fainéant? Est-ce ainsi qu'on travaille? » cria-t-il en levant son bâton ferré. « Tes fagots sont mal faits. Je vais les voir liés de fines branches vertes. »«
Mon oncle, je ne peux pas, » répondit le garçon. « J'entends le bois vivant gémir et demander pitié quand j'approche de lui mon couteau. »
Son amie frissonna. Elle dit, « Les poissons que je prends se plaignent aussi. J'en souffre tant que je les rends au fleuve. »«
Tais-toi, fille des eaux, » gronda l'oncle. « Tu troubles mon neveu, tu lui tournes la tête. Je sais bien qui tu es. Un jour, sorcière, je te prendrai, je t'écaillerai et je te ferai frire. »
Un matin de printemps, Thorchen s'en alla, sans rien dire, avec un grand sac sur l'épaule. Son neveu s'étonna. Il le suivit. Il le vit lancer un filet noir sur le fleuve. Dans ce filet, il vit se débattre un poisson, un seul. Il était d'or. Alors, dans son cœur, s'ouvrit la porte d'un grand mystère. Sa bonne amie était en vérité la princesse des eaux. Elle était prisonnière. Elle allait mourir sur l'herbe du rivage. Il se précipita. Son oncle voulut l'empoigner, le jeter loin de lui. Les deux pieds du garçon s'enfoncèrent dans la terre et les arbres de la forêt, comme poussés par un vent de tempête, vinrent à son secours, les feuillages en bataille. Thorchen recula. Il courut à sa cabane. Il décrocha sa hache, s'en retourna dehors et se mit à cogner comme un titan revenu de l'enfer. Mille buissons empêtrèrent ses pas. Mais ce fut en vain. Il les écrasa sous les arbres tombés. La princesse des eaux délivrée vit cela. Elle vit le chêne aux branches illuminées, seul encore debout parmi ses frères abattus. Le prince des forêts, savait-il qu'il l'était, allait bientôt périr. Alors elle s'en alla, remonta le fleuve, appela les ruisseaux, les sources, les rivières, et tous vinrent à elle, envahirent les rives, noyèrent le pays, engloutirent enfin Thorchen, et roulèrent son corps jusqu'à l'océan. La princesse des eaux et le prince des forêts ne sont que deux enfants, un garçon, une fille. Dans la paix revenue, tous les jours à nouveau, ils se parlent au bord de la rivière. Ils s'aiment d'amitié. Personne, maintenant, ne vient plus troubler leur bonheur d'être ensemble. corse. La migraine, le point de côté et la mort. La migraine, le point de côté et la mort, un jour se retrouvèrent à voyager ensemble. Ils n'avaient pas souvent l'occasion de se voir. Ils décidèrent donc de faire un bon repas pour fêter dignement cette heureuse rencontre. Or, leur bourse était plate. Qu'importe, dirent-ils, avisant un berger dans un champ de rocaille, nous allons demander à cet homme un mouton. Nous l'effraierons un peu, il nous le donnera sûrement de bon cœur. Ce berger déjeunait de pain et de fromage à l'ombre d'un rocher. Migraine vint à lui, lui donna le bonjour et lui dit l'œil luisant. Tu as de beaux moutons.
Je n'ai pas à me plaindre, répondit le berger. J'en veux un, le plus gras.
Si tu peux le payer, dit l'autre, il est à toi.
Le payer? Ricana Migraine. Bonhomme, sais-tu bien à qui tu as affaire?
Non, dit le berger, et je m'en moque bien.
On m'appelle Migraine. Tu me donnes un mouton ou j'entre dans ta tête.
Tu ne me fais pas peur, répondit le berger. Il but une lampée à sa gourde de vin. Migraine, en ronchonnant, pénétra dans son crâne et là, cognant partout, alluma ses douleurs et répandit sa fièvre. L'homme, le front brûlant, s'enfuit jusqu'au torrent qui dévalait du mont et s'aspergea d'eau fraîche. Migraine en fut glacée. En couinant et tremblant autant qu'un chat mouillé, piteusement, elle s'enfuit, rejoignit le chemin où l'attendaient les autres et leur dit, essoufflée,
« Il est trop fort pour moi !»
« Ne t'inquiète donc pas, lui dit Point de Côté. Moi, je le materai, je ne crains pas l'eau froide. » Il s'en vint au berger.
« Bonjour, l'homme, dit-il.
« Salut, répondit l'autre en mâchouillant un brin de lavande sauvage.
« Je suis Point de Côté. Donne-moi un mouton.
Sinon, mon bon ami... « Je te vrille les côtes. »«
Passe ton chemin, répondit le berger. Petit mal, petit prix, tu n'auras rien de moi. »
Point de Côté furieux s'enfonça dans son ventre. Le berger alluma deux grands feux de bois sec et s'allongea entre eux sous une couverture. Point de Côté sua, pesta, se sentit fondre. Il se traîna dehors, soufflant et ruisselant, revint en titubant à ses deux compagnons.
« Il m'a eu !» leur dit-il.
La mort lui répondit, « Moi, il ne m'aura pas !»
Elle bomba le torse et s'approcha du roc où était le berger.
« Sais-tu qui te vient là, bonhomme ? » lui dit-elle en ouvrant grand ses bras.
« Non, lui répondit l'homme, « mais tu ne me plais pas. »
« Je n'en suis pas surprise, ami. Je suis la mort. »«
Et que veux-tu de moi ?»«
Un mouton, rien de plus. »«
À toi, dit le berger, je ne peux pas refuser. Prends un mouton ou trois ou dix si ça te change. »«
En échange, oublie-moi le plus longtemps possible. Je suis pauvre, c'est vrai, mais j'aime bien la vie. » La mort lui répondit,
j'ignore comme toi ce qui te reste à vivre, mais si tu veux savoir, ce sera bientôt fait.
Elle jeta sur lui son vaste manteau noir. Le berger aussitôt se vit dans un grand champ, aux horizons de brume. Dans ce champ, des chandelles brûlaient par millions. La mort lui désigna parmi elles une flamme.
« Berger, voici la tienne. »
« Comme elle brûle bien, comme elle brûle vite, » dit le berger, « j'aimerais, s'il te plaît, qu'elle brûle 100 ans. »«
Je ne peux rien pour elle, » lui répondit la mort. « Moi, j'attends. Voilà tout. Quand la flamme s'éteint, je vais chercher mon homme. » C'est là mon seul travail.
Le berger, un instant,
resta la bouche ouverte, puis éclata de rire. Il était à nouveau dans son champ de rocailles où ses bêtes paissaient. « Tu ne peux rien, dit-il, ni pour ni contre moi. Pourquoi donc t'offrirais-je un mouton, même maigre ? Tu n'auras rien, bougresse, sauf de ce bâton-là, si tu n'es pas parti avant qu'il ne te rosse. » Il brandit son gourdin et le fit siffler dans l'air. La mort se dissipa comme une fumée noire. Plus puissante qu'un mont, plus faible qu'un cheveu, je crois qu'elle s'en fut cachée au village où le coq n'a jamais chanté. Fin de la deuxième face de la première cassette, Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, page 50.